On va voir encore une suite de la série ce que nous sommes devenus en Jésus, les nouvelles positions que Dieu nous a données, un nouveau statut à cause qu'on appartient au Seigneur. On a donné notre vie au Seigneur, on sert le Seigneur nous a fait naître de nouveau, on a reçu son esprit, la semence de Dieu est entrée dans notre cœur, on a cru puis on l'a reçu. Puis à cause de ça, ça a changé notre vie. Ça nous a transformés pour nous amener à être une nouvelle créature. Puis ça, je le répéterai jamais assez, parce que c'est pas la circoncision ou l'incirconcision qui compte. L'important, c'est d'être une nouvelle créature. Puis ça, c'est produit par l'Esprit de Dieu quand on retrouve notre contact avec Dieu. Quand on se tourne vers lui, puis là, on reçoit l'Esprit de Dieu, on est de nouveau, puis on est des nouvelles créatures, puis là, on voit le royaume de Dieu, puis on est entré dans le royaume de Dieu. Puis un jour, on va y être concrètement, les deux pieds dedans, dans son royaume éternel. Puis ça, ça nous a donné plein de nouveaux statuts, puis en même temps, quand que le Seigneur nous parle de cela, il veut nous faire réaliser nos responsabilités dans ces statuts-là. Dieu s'attend de quelque chose de nous. Il veut qu'on porte du fruit, puis ce fruit-là, ça fait partie de ce qu'il doit sortir de la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, le point qu'on va voir, nous sommes, grâce au Christ, devenus des pourvoyeurs pour le Seigneur. Quand que je parle des pourvoyeurs, c'est être des gens qui pourvoient. Pourvoir, c'est fournir, c'est donner, c'est de faire avancer les choses en mettant ce qu'il faut pour que ça avance. On va voir là, un peu dans différents passages, à nous apprendre à être généreux dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous apprendre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est obligé de donner. Puis s'il ne donnait pas, c'était le jugement de Dieu qui tombait sur eux. La dîme est obligatoire, puis s'il ne donnait pas la dîme, c'est une malédiction qui tombait. Mais on n'est plus dans cette alliance-là, on est dans la nouvelle alliance, puis Dieu veut nous faire voir la vie différemment, avec un nouveau regard. La question qu'on peut se poser quand on comprend qu'on est un pourvoyeur, quel genre de donateur êtes-vous? Êtes-vous des personnes riches en générosité? Parce que c'est là-dedans que Dieu veut nous amener, frères et sœurs. Puis je suis sûr qu'il n'a pas fini de travailler dans nos vies pour nous amener à être au niveau que lui voit les choses. C'est un peu la suite de la semaine passée, parce que la semaine passée, on a vu qu'on était des dispensateurs. Puis le mot dispensateur, c'est administrateur de ce que Dieu nous a confié. On administre les dons qu'on a reçus. Puis on part avec ce verset-là. Ça, c'est dans 1 Pierre 4:10. Ça nous dit, « Comme de bons dispensateurs, administrateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Là, Paul il écrit cette phrase-là, dans ce sens-là. Mais pensez-vous que les gens ont reçu qu'un seul don?
Non.
C'est minimum un don. C'est quand on dit la personne avait reçu 5 talents, l'autre 2, l'autre 1. L'autre, ça, c'est dans la parabole. Mais dans notre vie, franchement parlant, pensez-vous que vous avez juste un don que Dieu vous a donné? Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, ce que vous avez, ce que vous êtes, y a-t-il juste une affaire de bon ou que Dieu pourrait se servir dans notre vie ou s'il y en a plusieurs? Ça fait partie de notre service. Le faire par amour, c'est le mobile pourquoi qu'on fait les choses. Parce qu'on aime Dieu et qu'on aime le monde, c'est le mobile. Mais la diversité de choses qu'on peut faire, de diversité de façons qu'on peut intervenir parmi les gens qui nous entourent, parce qu'on a vu que la semaine passée, tout ce que Dieu nous a donné, c'était pour les autres. C'est pas pour nous. Il n'y a aucun don dans la pensée de Dieu, il n'y a aucun don que Dieu nous a donné pour nous. quand il dit dans ce verset-là que chacun de vous mette au service des autres, ça fait partie du plan de Dieu que notre vie serve aux autres. Jésus est paru comme un serviteur. Il s'est dépouillé de ce qu'il pourrait avoir. Il n'a pas recherché à retourner à se penser Dieu, à s'élever comme Dieu. Il est devenu comme un serviteur, puis il a servi dans les autres. Il a donné sa vie pour les autres, mais toute sa vie, c'était une vie de service, d'aider, prier pour les autres, puis chasser les mauvais esprits, puis guérir les malades. Sa vie était déversée pour les autres. Nous devons apprendre à devenir riches, de riches pourvoyeurs. On doit apprendre à devenir des riches pourvoyeurs, des grâces de Dieu. Il y a pas, comme je disais, il n'y a pas juste un cadeau, il y a des grâces qu'on a reçues spirituellement parlant, il y a les dons spirituels, ce qui vient du Saint-Esprit. Il y a les dons aussi, les dons matériels et monétaires. Tout ce qu'on est physiquement, humainement parlant, on est capable d'aider. Tu vois quelqu'un pris sur le bord du chemin, tu t'en vas donner une petite poussée à son char, tu es capable de le faire. Physiquement, Dieu nous appelle à intervenir, puis aussi financièrement, parce que l'œuvre de Dieu peut pas marcher sans que les finances soient là. Puis dans beaucoup de cas, c'est les finances qui bloquent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça, faut le dire. C'est pas une plainte, c'est pas une critique, c'est une constatation. Il y a beaucoup de places que je connais, des gens que je connais, qui ont été bloqués dans leur plan puis dans leur avancement parce que les fonds n'étaient pas là comme c'était le temps. Puis c'est tout. Il y a des choses qui retardent. Pourquoi que ça retarde? C'est sûr que l'homme, s'il n'est pas là, Dieu est capable de s'y prendre autrement, puis Dieu il a un plan parce qu'il va encore plus loin que nous. Mais je peux vous donner des exemples de ça, mais là, je ne voulais pas embarquer dans cette idée-là, mais mettons un exemple, la station de radio, les Juifs qu'on a présentement. On est en onde à Montréal. La station est dans nos mains présentement. On gère 7 jours par semaine le temps d'antenne. Au début, on avait juste le samedi. On avait 25 heures par semaine, puis maintenant, on a 16 jours qui nous a été confiés par le Seigneur. La station, on pourrait l'acheter pour qu'on soit réellement propriétaire là, mais l'argent est pas là. Fait que André Joly continue à faire l'œuvre, à servir, à placer l'horaire, puis à faire marcher tout ce qui est diffusé en ondes. Puis en passant, ça a un impact incroyable. Dans trois émissions en anglais qu'on passe, puis qu'il y en a une en français aussi, qui appartiennent à Aujourd'hui l'Espoir. Savez-vous combien d'appels qu'ils ont à gérer dans un mois? Au-dessus de 10 000 appels par mois que le monde appelle puis avoir des informations juste sur 4 émissions parce qu'ils donnent le numéro de téléphone d'Aujourd'hui l'Espoir à la fin. 10 000 par mois, puis là, ils sont débordés, ils ne savent plus comment faire pour répondre aux appels. Mais ça, c'est un impact puissant à la radio. On pense qu'il n'y a pas grand monde qui écoute la radio. Oui, il y a beaucoup de monde qui écoute la radio, surtout s'ils savent que c'est une radio chrétienne. Il y en a qui nous ont appelé à la station, puis le gars, il dit, il se promenait sur la rue, puis avec ses écouteurs, puis il entendait notre station, puis il écoutait l'émission, puis il n'était pas chrétien. Puis là, on faisait tirer un CD, il a appelé, puis il l'a gagné. Puis il nous a conté ça, qu'il était sur la rue, puis mais il y a du monde sur la rue, ils sont dans leurs autos, ils écoutent la radio, puis ils tombent là-dessus, puis ils écoutent les messages qui parlent du Seigneur, puis de la foi en Dieu, puis le salut est répandu sur les ondes par la radio à Montréal. Il y a un potentiel de 2 millions d'habitants qui entendent la radio. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est pour vous dire, c'est là, ça produit du fruit, mais il n'y a pas encore d'homme qui aura dû mettre les montants là pour pouvoir l'acheter. Ça fait longtemps qu'il est à vendre. On l'a pas, ce montant-là. Le Seigneur va nous le donner pareil parce qu'il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, puis tout lui appartient. Mais, comme je vous disais des fois, le plan de Dieu, il est retardé, puis Dieu est obligé de se prendre différemment. Mais il y en a des chrétiens millionnaires qui sont capables. Pourquoi qu'ils le font pas? Bien, j'ai entendu toutes sortes de réponses, mais le but n'est pas de critiquer, le but est de semer une vision. Il y a plein d'œuvres qui se feraient, puis Dieu attend que les chrétiens soient là pour backer l'œuvre, pour faire avancer l'œuvre, qui deviennent des pourvoyeurs. À plusieurs moments, Jésus a agi comme un pourvoyeur. Que ce soit pour pourvoir pour les besoins de maladie, il guérissait les gens. Chasser des mauvais esprits, il a chassé les esprits. Quand c'était le temps de nourrir le monde, il les a nourris. Il était un pourvoyeur. Il nous a montré l'exemple qu'il était là pour les besoins. Puis c'est à cela qu'il veut nous amener, Seigneur, à ce qu'on soit là pour les besoins. Il veut qu'on le suive, qu'on imite ce qu'il fait. Dieu, Jésus était là pour les besoins. Puis il veut qu'on devienne à être là pour les besoins. L'œuvre est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus, lui, il a eu aussi le devoir d'enseigner à ses disciples qu'il fallait être les premiers à donner, qu'il fallait donner dans l'œuvre, qu'il fallait pourvoir. Il l'a montré, puis il y en a bien rapidement, dans Jean 6, le verset de 1 à 5. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Puis là, il dit, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il y avait plus de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5 000 personnes devant lui, il était à sa butte, là, sur une montagne, puis le monde était tout là, assis, puis il suivait Jésus, parce que Jésus guérissait tout le monde. Puis là, Jésus pose la question à Philippe, il dit, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Puis il dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Mais dans ce verset-là, dans le même passage, dans Matthieu, dans Matthieu 14, 16, c'est le même passage, la même histoire. Mais Jésus avait rajouté une autre phrase. Les disciples disaient, « Envoyez-les pour qu'ils aillent se nourrir. » Jésus a dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Dans ce contexte-là, Jésus voulait, il savait ce qu'il était pour faire, qu'il était pour être le pourvoyeur, pour pourvoir à toute cette foule-là qui suivait Jésus. Mais Jésus voulait faire prendre conscience à ses disciples. Ses disciples, eux autres, c'était « Envoyez-les, hey! » Puis ils vont dans d'autres versants, on va dire « Où est-ce qu'on va prendre tout l'argent que ça va coûter pour pouvoir... On va, où est-ce qu'on... Y a-t-il une boulangerie assez grosse dans le coin pour nourrir tout le monde? » Parce que c'était pas en grosse quantité comme aujourd'hui. L'idée, c'est que le premier obstacle que les gens se mettent, c'est toujours la capacité de pourvoir. En a-t-il moyen? On n'est pas capable, on n'a pas l'argent. Ce que Jésus recherche, il recherche bien plus du monde qui ont à cœur de faire avancer, puis qui vont aller au-devant en croyant que Dieu est capable de faire un miracle pour pourvoir. Amen. Comme je vous disais tantôt, là, la radio, si on aurait attendu en regardant, on n'a pas l'argent, puis on était confronté à toutes sortes de situations difficiles, ça prenait des montants. Le Seigneur a toujours pourvu ce que ça coûtait à chaque moment, puis à chaque déplacement, il a toujours pourvu. On a juste à dire, on continue, c'est le plan de Dieu, puis Dieu va pourvoir. Mais Dieu cherche des gens qui sont prêts à avancer pour être dans ce courant-là d'avancer, pour être un pourvoyeur. On pourvoira avec ce que Dieu va pourvoir. On veut-tu avancer? C'est là la question. Puis Dieu veut nous ouvrir les yeux, autant qu'il est obligé de parler aux disciples pour les guérir. Hein? Oui, c'est à vous autres, donnez-leur à manger. Ayez la vision que c'est votre rôle maintenant d'être les pourvoyeurs. C'est ça que Dieu veut nous amener. Il a fallu qu'il enseigne ses apôtres, puis je pense que nous autres, ça, on a besoin d'être enseignés. Même si c'est pas écrit, il y en avait eu d'autres occasions que Jésus il a demandé aux disciples de donner aux pauvres. Comme qu'il dit dans Jean 13, le verset 27 à 29. Ça, c'est le c'est quand que Jésus a dit qu'il y en a un de vous qui va me livrer, puis celui que je dois donner le morceau trempé, c'est lui qui va me livrer. Puis dès que le morceau fut donné, ça dit Satan entra dans Judas, puis Jésus a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement, fais-le rapidement, vite, va faire ce que tu as à faire. Mais là, ça nous parle du contexte de la pensée des autres. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi qu'il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas, il avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce qu'on a de besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Donc, c'était déjà normal pour les disciples, à ce temps-là, c'était à la fin de leur vie de contact avec le Seigneur, à la fin de leurs 3 ans, Jésus était pour mourir, là. Puis là, il savait que ça pouvait arriver que Jésus demande de donner de l'argent aux pauvres. Parce qu'il avait cette idée-là enseignée par Jésus, puis c'était comme, ça arrivait plusieurs reprises que Jésus aurait pu dire, donne ça, donne ça, donne ça. Pas juste une fois la multiplication des pains. C'est arrivé 2 fois à ce qu'on sache, mais ça a peut-être arrivé en d'autres occasions, puis de d'autres façons. Jésus, il a enseigné à devenir généreux. En tant que chrétien, il enseigne ses enfants à être généreux. Puis il a enseigné aussi comment s'enrichir matériellement et spirituellement. Il y a une façon, il y a une formule que Dieu a donnée. Tu veux être béni par Dieu, tu veux être dans l'abondance matériellement et spirituellement. Dans une de ses enseignements, dans Luc 6, 38, il dit, donnez et il vous sera donné. Tu veux recevoir, c'est bien beau, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Oui, on veut tout ce que Dieu veut nous donner. Mais il dit avant, il dit donne, puis il va t'être donné. C'est extraordinaire, c'est une promesse de Jésus. Tu veux prospérer physiquement puis spirituellement, je te dis pas que tu vas devenir millionnaire. Je ne parle pas à la doctrine de la prospérité, là, puis que tous les chrétiens vont devenir millionnaires, c'est faux. Mais Dieu peut en faire venir des riches, par exemple. Dieu peut faire que de tes enfants deviennent à être des pourvoyeurs, puis qu'ils soient utilisés par Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein, ça c'est votre intérieur, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire que tu veux, Dieu voit ce qu'on fait, puis il voit si on est séraphin, si on est avare ou si on est riche, généreux, libéral, prêt à tout donner. On donnera notre chemise. Dieu sait, mais Dieu, il veut qu'on apprenne, qu'on récolte ce qu'on sème, puis on va recevoir selon ce qu'on a, la manière qu'on aurait été avec les autres. Une mesure serrée, secouée ou qui déborde. Quel genre de mesure vous voulez que Dieu mesure pour vous? Mais vous allez recevoir dans la même quantité que vous êtes capable de donner. Il faut apprendre à donner, à faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est la priorité. Il nous le dit pas dans un autre verset, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes les autres choses vous seront données. Il faut que tu sois les yeux sur l'œuvre de Dieu en premier. Tu appartiens au Seigneur, tu es un administrateur des choses du Seigneur. Tout ce que tu as appartient au Seigneur, puis le Seigneur veut que tu t'investisses pour son œuvre.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. J'aime ça entendre des amen. Dieu regarde pas au montant nécessairement, parce que des fois, il y en a qui savent qu'ils n'ont pas beaucoup, puis des fois, ça pourrait être décourageant. Oh, ben, j'ai donné un 2 cette semaine. Ouais, mais si t'es quelqu'un sur l'aide sociale, Dieu s'attend pas que tu signes ton chèque, là. Quand tu donnes 2 piastres, là, t'es en train de donner ton nécessaire, tout ce que t'avais pour vivre. Au prix qu'ils sont éloignés, là, puis l'électricité, puis la bouffe, là, tu t'as pas, Dieu s'attend pas que tu lui donnes toute ta paye, là. Mais quand tu donnes, par exemple, quelqu'un qui est serré comme ça, Dieu le voit, puis il considère que la personne a donné plus que toutes les autres, parce qu'elle donne son nécessaire, tout ce qu'elle a pour vivre. Amen. Dieu ne regarde pas combien que tu donnes, mais il le regarde. C'est là, je dis ça de façon, il te regarde pas pour te critiquer, pour te juger, mais il récompense, puis il donne. Quand tu donnes 2 piastres dans tes soulèdes sociales, il t'a donné plus que toutes les autres. Attends-toi que Dieu, il a des richesses pour toi qui s'en viennent. Les bénédictions. Ça, on peut lire ça dans Marc 12, 43, 44, quand il parle justement que la veuve qui avait donné un quart de sou, elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Puis Jésus l'a mentionné qu'elle a donné plus que toutes les autres. Les apôtres aussi ont enseigné sur le fait de donner avec générosité, comme dans Romains 12, 8. Là, il nous énumère que celui qui est dans le ministère s'attache à son ministère, celui qui est dans l'enseignement, il s'attache à la parole, à prêcher la parole, il s'attache à la parole. Un autre, ça va être les dons spirituels, c'est son ministère. Puis un autre, il dit que celui qui donne, le fasse avec libéralité. Donner fait partie des dons de ministère. C'est un ministère d'être quelqu'un qui pourvoit à l'œuvre de Dieu. Dieu a permis, dans sa volonté, que des gens qui en fassent, puis qu'il leur en reste, puis que Dieu le sait, puis il veut qu'ils servent de cela. Pouf! C'est leur don, c'est leur capacité qu'ils ont reçue de faire facilement de l'argent. Puis Dieu veut que les gens se servent de ce qu'ils ont pour investir, faire avancer l'œuvre de Dieu. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Puis la libéralité, là, ça, le mot grec là, c'est pas d'hypocrisie, pas d'égoïste, mais par générosité. Ce qui est le pire, c'est quand on cherche les photos. T'as fait un chèque, là, tu montes ton chèque dans le journal, là, tu montes la photo. Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. Ça veut dire, si t'as pas cherché ta photo dans le journal puis le dire à tout le monde, il dit que ta main droite, que ta main gauche cherche pas ce que fait ta main droite. Tu donnes de quoi à quelqu'un? Vente-toi-en même pas à toi-même, dans le sens. Faut que tu cherches à faire les choses discrètement. Dieu qui voit, lui va le rendre. Lui a déjà sa récompense. Ça veut dire que l'autre va avoir une récompense de Dieu. S'il donne. Mais oui. Mais sans hypocrisie. Sans être égoïste. Mais par générosité. Dans Hébreux 13, 16, ça nous le dit aussi, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu prend plaisir de voir les gens qui mettent la main dans leur poche puis qui aident quelqu'un. La bienfaisance, c'est de faire des œuvres bonnes. Faire des bonnes œuvres, aider quelqu'un qui a besoin, Dieu regarde ça. Puis c'est à ça que Dieu prend plaisir. Moi, je regarde un film à la TV, puis quand c'est un film touchant, là, ça me touche, j'aurais le goût de bras. Mais des fois, les larmes me viennent parce que je trouve ça trop beau. Il y a de l'autre, puis là, je vois que c'est super beau, puis ça me touche. Mais Dieu, il est pareil. Il nous regarde aller, là, puis quand il voit quelqu'un qui est dans le besoin, Dieu, il a de la peine. Puis quand il voit l'autre qui est en train d'y donner, Dieu, il est content, il est heureux, ça réjouit son cœur, puis il embroille. Dieu, il est touché de voir ça. Il dit, ça a de tels sacrifices. Ça a coûté de quoi à quelqu'un, ça? Quand le gars, il m'amène dans ses poches, puis il donne, ça coûte quelque chose, c'est un sacrifice. Dieu, il dit, ça a de tels sacrifices qui prend plaisir. Il aime nous voir être en train d'aider les autres puis de leur faire du bien. Puis là, le Seigneur, dans son merveilleux plan pour nous enrichir, il met toutes sortes de situations devant nous dans le but de nous apprendre à donner, nous donner des occasions de donner dans son œuvre. Puis là, dans ce passage-là que je vous parle, je prends l'exemple de Luc, chapitre 10, les versets 30 à 35. C'est la parabole du bon samaritain. Jésus reprit la parole, puis il dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, puis le chargèrent de coups, puis ils s'en allèrent. Ils ont donné une volée, puis ils l'ont volé. le laissant à demi-mort. Un gars qui est à moitié mort, là, sur le bord du chemin, tout plein de bleu, ensanglanté, puis une scène dans ses poches. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha de lui, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Il a marché, puis il a laissé l'autre sa monture. Il le conduisait à une hôtellerie, il prit soin de lui pour la journée. Le lendemain, il tira 2 deniers, il les donna à l'autre, puis il dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ça, pourquoi vous pensez que Jésus nous a parlé de cette parabole-là? Il voulait nous apprendre de grandes vérités. Premièrement, est-ce que vous croyez au hasard?
Non.
Pourtant, c'est écrit que par hasard, il descendit. Mais le hasard des hommes est le plan de Dieu. Oui, l'homme, il est surpris par hasard, par inadvertance, ça n'attendait pas, il est surpris. Il y a quelqu'un sur son chemin, en passant, c'est arrivé, sans qu'il s'en attende, sans qu'il l'ait planifié, il y a quelqu'un de blessé, là, il y a un besoin, là, devant ses yeux. Mais c'était le plan de Dieu, pas que Dieu l'a fait, mais Dieu a permis que ce gars-là passe là, à ce moment-là, dans le but qu'il intervienne. Les deux premiers, ils ont manqué l'occasion de s'enrichir. Ils ont manqué l'occasion de Dieu. Ferme les yeux. Ils veulent pas voir. Ils veulent pas s'en mêler. Ils veulent pas être obligés, par du temps, par de leur argent, être obligés de mettre la main dans ses poches pour aider, puis après de s'en occuper, de le laver, de le soigner. Puis ça coûte quelque chose de s'occuper du monde. Ça coûte quelque chose pour être chrétien. Mais ça fait du bien à l'autre. Puis toi, ça t'a enrichi. C'est la même chose que les Juifs dans leur mentalité aujourd'hui. Puis je le crois, puis je l'ai pris pour moi aussi. Quand tu vois un pauvre qui est là, qui te quête, là, c'est une occasion que Dieu a mis devant toi, une occasion de t'enrichir. C'est pas un hasard qui est là. Dieu l'a mis là, sur ton chemin, pour que tu fasses quelque chose pour lui.
Un hasard de Dieu.
Ouais. Puis Dieu voulait te bénir à travers ce gars-là. Ouais. Pas que qu'est-ce que le gars va te remettre, parce que tu donnes pas dans le but de recevoir. Tu le fais pour servir le Seigneur. Mais le Seigneur qui voit les choses, lui va te le remettre. Tu vas t'enrichir. Il dit, donnez, il vous sera donné. Puis tout l'exemple là, tourne même jusqu'au point que le gars était à l'hôtellerie, puis il en a pris soin de la personne, puis en plus, il a sorti encore la main dans ses poches, puis il a mis de l'argent à sa table, puis il dit à l'autre, il l'a payé pour que l'autre s'occupe. Il n'y a pas d'assurance maladie, puis d'assurance, toutes les assurances de compagnie dans ce temps-là. Là. Tu crevais de faim, là, tu étais là, puis tu as agonisé là, t'as vidé de ton sang, personne ne sera occupé de toi. Il sera mort. Il était à demi-mort. Mais il sera mort au complet. Mais Dieu veut nous faire comprendre là-dedans qu'il faut pas manquer d'occasion. Si tu as les moyens, là, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce qu'il n'y a ni pensée ni œuvre dans le séjour des morts, ce qu'on s'en va après. On s'en va dans une place où il n'y aura plus d'œuvre possible à faire. C'est ici, pendant qu'il fait jour, on est encore là, puis on a le temps de faire les œuvres. Amen. Dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il y a eu une grosse famine. Je fais ça rapidement. Dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il y a eu une grosse famine à Jérusalem. Puis Paul nous l'a confirmé dans l'épître de Paul aux Corinthiens que plusieurs églises des païens ont pourvu en aidant matériellement. Dans 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 4. Là, Paul est en train d'écrire la lettre aux Corinthiens. Il dit, « Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » La Macédoine, c'est un territoire qui n'était pas juif, qui était un territoire, ben, il y a peut-être des juifs puis des gens du monde, il y en avait partout, mais l'idée, c'est que c'était des églises qui n'étaient pas des églises de Jérusalem. Mais, ça dit, il y a eu une grâce qui a été manifestée dans ces églises-là en Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Ils ont eu une période difficile, les Macédoniens. Mais, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, on parle de monde pauvre. Quand on parle de pauvreté profonde dans ce temps-là, c'est du monde qui avait juste pour dire qu'il avait de quoi manger. Il avait juste une tunique sur le dos. Il avait rien d'envie, sauf le linge qu'ils ont sur le dos puis le peu de bouffe qu'ils peuvent aller chercher pour se nourrir dans leur journée. Ça, c'était la pauvreté profonde, s'il avait de quoi manger, comme ça se passe présentement dans certains pays. Mais il dit, malgré qu'il y avait beaucoup de tribulations et une pauvreté profonde, ils ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. C'est qu'ils ont donné beaucoup au-delà de ce qu'ils auraient pu se permettre. Ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement, ils n'étaient pas obligés, selon leurs moyens, ça c'était pour aider les chrétiens de Jérusalem qui vivaient une sécheresse, là. C'était difficile. Ils ont donné volontairement sur leurs moyens, puis même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Pour eux, bien qu'ils étaient pauvres, une pauvreté profonde, bien qu'ils étaient dans beaucoup de tribulations parce que l'Église du Seigneur t'a persécuté, ils ont demandé à Paul, on veut donner, on veut donner, on veut donner, ils l'ont achalé. Ils savaient, Paul, qu'eux autres n'avaient pas d'argent, mais il dit, me demandant avec grande instance, fait qu'ils ont insisté, ils ont achalé pour pouvoir avoir part à pouvoir profiter de l'occasion de donner aux saints de Jérusalem. Les saints de Jérusalem, mais c'est les 12 apôtres avec les centaines puis les milliers de personnes qui s'étaient converties, qui allaient à l'église de Jérusalem. Ils étaient tous dans la misère, ils n'avaient rien à manger par une secousse, parce qu'il y avait une sécheresse, puis Paul, ça y avait été demandé de penser à eux, puis de les envoyer de quoi, puis il a dit « je vais le faire ». Puis là, ça nous dit qu'il a fait le tour des églises de la Macédoine, de ces églises pauvres-là. Puis pour eux, c'est une joie, ça dit une joie. Il dit une joie débordante malgré leur pauvreté profonde. Puis ils ont produit beaucoup de dons qu'ils ont donnés pour aider les saints. Puis ils ont insisté pour le faire, même s'ils ne l'avaient pas, qu'est-ce que ça prenait. Ça, là, c'est un exemple, frères et sœurs. Dans la Bible, là, c'est un exemple de personnes qui n'ont pas manqué l'occasion de faire de quoi, pour faire avancer l'œuvre de Dieu à Jérusalem. C'était pas leur église locale, là. Ils vivaient en Macédoine, puis ils aidaient du monde à Jérusalem. J'ai pas checké quelle est la distance qu'il y avait, mais c'est comme si il y aurait à Longueuil, il y aurait une crise, là, une grosse famille, puis il faudrait aider une église de Longueuil. Puis que là, nous autres, on n'a pas une scène, on est tous des pauvres, je suis quasiment sur l'aide sociale, puis on gratte, puis on ramasse, puis on leur donne une riche bénédiction. Pensant que je manquerai pas cette occasion-là de bénir Dieu, puis de bénir l'œuvre de Dieu dans ce que je vais pouvoir faire pour faire avancer son œuvre. Ça fait partie... l'exemple d'être un pourvoyeur. Quelqu'un qui a compris qu'il n'est pas là pour lui. Puis tout ce que Dieu nous permet de voir, mais c'est une occasion. C'est une bénédiction qu'on a de pouvoir s'enrichir. Dans cette lettre aux Corinthiens, en continuant un peu plus loin, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 5, Paul nous explique plusieurs enseignements très enrichissants contenant plusieurs promesses venant de Dieu. Le texte qu'on va aller lire, là, il y a Paul, c'est comme s'il parlait aux Corinthiens, puis il essayait d'exciter les Corinthiens à participer à l'œuvre. Mais il voulait pas les forcer, mais il voulait qu'ils... Parce qu'il avait dit aux Corinthiens, Préparez-vous, là. Il avait envoyé ça dans une lettre pour dire, préparez-vous. Vous avez dit que vous voulez donner, vous vouliez participer. Mais là, il dit qu'il a envoyé, au verset 5, « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant, avant que Paul arrive. » Il a invité des frères à se rendre chez eux et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Parce que les Corinthiens avaient promis qu'ils pourvoiraient, mais avant que Paul arrive pour aller collecter ce qui était pour donner, pour le donner à Jérusalem, il dit, j'ai envoyé des frères pour aller voir votre libéralité afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Vous avez promis de donner, puis je m'attends à ce que, mais je dis, ah, j'aurai de quoi ramener, mais j'ai envoyé du monde pour aller vérifier si vraiment vous êtes dans la générosité, dans que vous êtes vraiment en train de donner pour participer, parce que là, s'il arrive là, puis il n'était pas prêt, puis il n'avait rien ramassé, puis là, Paul, il dit ça ne sera pas un acte de libéralité, ça sera un acte d'avarice. Parce que, pourquoi qu'il lui dit ça? Parce que tout le monde est conscient du besoin, qu'à Jérusalem, ils crevaient de faim, puis ça prenait de l'aide. Puis là, ils n'avaient parlé, ils ont tous dit oui. Mais pour être sûr que c'était prêt, il leur a dit, soyez généreux. Soyez pas des avares. Alors regardez la Macédoine, comment est-ce qu'elle a donné. Ça, il lui dit ça au chapitre 8. Là, au chapitre 9, il lui dit, je m'en vais voir, puis j'espère que vous allez être prêts. Puis là, au verset 6, il dit, sachez-le, après de leur avoir dit, là, soyez pas avares. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Là, il lui dit, soyez libéral, soyez lousse, soyez généreux. Parce que si vous donnez pas gros, vous êtes pas obligé, mais si vous donnez pas gros, vous récolterez pas. C'est ça qu'il lui dit. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. C'est une promesse. C'est pas, ça vient pas de Paul, ça. C'est la même parole que Jésus a dit. Donnez, il vous sera donné. Vous allez recevoir selon la même mesure que vous vous serez servi. Ça veut dire qu'il lui dit, donnez, soyez pas avares, soyez généreux, parce que celui qui donne pas gros, il recevra pas gros. Celui qui donne beaucoup, va recevoir beaucoup. Puis au verset 7, il lui dit encore un encouragement, « Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » C'est encore une autre parole du Seigneur. « Soyez généreux, il dit, donne ce que tu as résolu, t'es pas obligé de donner. » Si tu penses que tu es obligé, là, tu devrais prier pour que Dieu change tes pensées. Faut pas que tu fasses les choses. Oh, je suis obligé de mettre de l'argent dans le tronc à l'église. Oh, je suis obligé d'aider le pauvre. T'es pas obligé. C'est des occasions de t'enrichir. Tu le fais pas pour recevoir des hommes. Tu le fais pour recevoir de Dieu. T'es un dispensateur. T'es un pourvoyeur des grâces de Dieu. Dieu t'a donné. Fais profiter les autres. Donne ce que tu as résolu, sois pas triste, sois pas forcé, c'est ce qu'il nous dit. Dieu aime celui qui donne avec joie. Tantôt, j'ai lu un verset qui disait d'exercer la bienfaisance puis la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand tu es généreux, Dieu prend plaisir à la générosité. Mais dit ici, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ça fait plaisir à Dieu. Dieu est content quand on le fait parce qu'on est joyeux et on veut aider les autres. C'est ça le caractère d'un chrétien. C'était le caractère de Jésus, puis il veut qu'on devienne comme cela. Puis là, il y a encore une autre belle promesse de Dieu dans le verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Tu vas donner dans l'œuvre, mais Dieu va te combler de toutes les façons. Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Il peut te combler physiquement, moralement, spirituellement, matériellement, monétairement. dans n'importe quoi, il va exaucer tes prières. Dieu va te le remettre de toutes les façons. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à vos besoins, mais vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire, Dieu, là, il est tellement bon qu'il va te donner tout ce que tu as de besoin, puis en plus, il va te donner over pour faire avancer l'œuvre de Dieu.
Amen.
On le veut-tu?
Oui.
On veut-tu que Dieu nous bénisse dans tous nos besoins, puis en plus, il va nous donner en over pour pouvoir encore aider plus dans l'œuvre. C'est extraordinaire. C'est une super promesse. Si on participe aux œuvres, puis on donne généreusement, puis on donne avec joie, mais Dieu va multiplier ce que tu as. C'est pas moins que l'inventer, c'est écrit. C'est le Dieu qu'on sert, ça.
Amen.
Il me semble qu'il n'est pas convaincu, cet Amen-là. Amen! C'est le Dieu qu'on sert, le Dieu qui bénit son peuple, il bénit ses enfants, il multiplie. Amen. Verset 9. Selon ce qui est écrit, il a fait des largesses. Dieu a fait des largesses. Chaque fois qu'on reçoit des bénédictions, il n'est pas obligé. C'est une largesse. C'est de sa richesse, de sa bonté, de ses grâces qu'il distribue sur chacun. Puis il est conscient de tout ce qu'il nous a distribué. Puis il veut qu'on s'en serve pour son nom, pour sa gloire. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Au verset 10, Dieu est celui qui fournit de la semence au semeur, puis du pain pour sa nourriture, puis il vous fournira, puis multipliera la semence, puis il augmentera les fruits de votre justice. Fait que non seulement il va te donner la semence pour que tu puisses semer, il va te donner le pain en plus pour que tu puisses manger, merci Seigneur. Puis en plus, il va t'en donner encore plus pour que tu puisses bénir les autres. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis. C'est ça que je disais. Dieu, il nous donne la recette pour devenir enrichis à ses yeux. Parce qu'il ne faut pas penser que si notre grenier il est plein, qu'on est enrichi. La parabole du gars que ce grenier était plein, puis il a bâti le plus grand grenier, puis il dit, mon âme, réjouis-toi, mange, bois et te réjouis, tu as beaucoup d'abondance, tout ça. Puis Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme va être redemandée. Ce que tu as ramassé, ça va être pour qui? Il dit, en est ainsi de celui qui n'est pas riche pour Dieu. Mais il dit qu'il veut nous enrichir. Vous serez de la sorte enrichis. Enrichis comment? Parce que vous avez donné dans l'œuvre, Dieu va vous enrichir, vous ayez votre normal, ce que vous avez besoin de base. En plus, il va te donner encore plus pour donner encore plus dans son œuvre. C'est de même qu'on est enrichi. Quand on réalise que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu, puis si on investit dans l'œuvre de Dieu, on est en train de s'enrichir. Si le compte reste dans le compte de banque, puis les richesses dans le grenier, tu n'as aucune récompense pour ces affaires-là. Il dit, vous serez de la sorte enrichi à tout égard, pour toute espèce de libéralité, et par notre moyen, nous ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Là, on rentre dans le but, pourquoi qu'il faut donner dans l'œuvre. Pourquoi qu'il faut profiter des occasions et aider quelqu'un quand c'est le temps, puis de faire avancer l'œuvre. Parce que le but, à la fin, de ce quand tu es en train de le faire, ça a produit quelque chose, le fait que tu l'aies fait. Ça a fait que ça a fait monter une action de grâce à Dieu. La personne qui a reçu, elle a dit, « Merci Seigneur de ce don-là, on avait besoin, puis là, il pourvoit. Alléluia, merci Seigneur, toute la gloire te revient. » Ils viennent de glorifier Dieu. C'est ça le but pourquoi qu'on a donné, dans le but que quelqu'un dise merci au Seigneur. Ça glorifie le Seigneur. C'est à cause de cela que Dieu va nous en donner encore plus, pour qu'on donne plus, qu'il y ait plus de merci au Seigneur. C'est ça qui est le but. Ça dit, car, le verset 12, le secours de cette assistance, non seulement que ça pourvoit aux besoins des saints, le fait d'aider, ça pourvoit le besoin, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. C'est que les gens, après ça, vont dire merci au Seigneur, Dieu va être glorifié avec nos actions, puis ça, ça va bénir Dieu. C'est ça le but pourquoi il faut être généreux. On le fait pour le Seigneur, puis le monde qui vont dire merci au Seigneur après, ça bénit le Seigneur, ça glorifie le Seigneur. Le Seigneur est fier de voir qu'il y a du monde qui a ouvert la bouche pour le glorifier. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Parce que quand t'es chrétien et t'es dans le besoin, là tu cries à Dieu, puis Dieu pourvoit. Merci Seigneur d'avoir mis à cœur à ces gens, puis en plus ils ont obéi, ils t'ont obéi, puis en plus toute la gloire te revient Seigneur, parce que tu les as mis à cœur, ils ont obéi, puis là je te rends gloire à Dieu, fait que c'est là qu'on se trouve à accomplir le plan de Dieu d'être le pourvoyeur. Un dernier verset. N'oublions pas cette dernière parole d'encouragement qui va dans le même sens. C'est dans les Proverbes, au chapitre 22, le verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Être bienveillant, là, c'est de veiller à faire le bien. Être toujours en éveil, toujours prêt à faire du bien. Mais il dit, l'homme qui a le regard, qui check toutes les occasions de faire du bien, là, sera béni parce qu'il a donné de son pain aux pauvres. Voyez-vous, Dieu voit tout. Il y a d'autres versets qui disent, sème ton pain à la surface des eaux, puis avec le temps, tu le retrouveras. Mais il dit ça, là, il dit, si tu es une personne qui donne de ton pain aux pauvres, mais Dieu, il voit. Puis Dieu voit que ton cœur est bienveillant, mais il dit tu vas être béni. Béni par qui? Béni par Dieu. Dieu veut nous bénir, mais il veut qu'on change notre approche, qu'on pense de bénir les autres, d'être prêt à donner, d'être un pourvoyeur. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tout ce qui est là, c'est super. Merci de ton œuvre que tu veux faire en nous pour nous rendre sensibles à ceux qui nous entourent. On vit pas pour nous, on vit pour toi. Puis merci des occasions que tu mettras devant nous pour qu'on puisse faire avancer ton œuvre. Donne-nous d'être sensibles, d'avoir un regard bienveillant, puis à voir chaque moment, les occasions que tu mets devant nous pour qu'on puisse te bénir. Que tu puisses être glorifié par notre intervention. Seigneur, que notre vie puisse servir à te glorifier. Puis merci de ce que tu vas faire à travers nous dans le nom de Jésus. Amen.